avec l'âge grandissant, l'arrivée de la maturité puis de la sagesse. On assimile souvent, vous le savez, une certaine sagesse aux cheveux blancs, une certaine expérience de la vie qui permet à ceux qui ne sont plus des novices, eh bien, de savoir relativiser, de savoir ce qui est important et de savoir ce qui est éphémère, de savoir que les rêves de la jeunesse ne sont pas toujours les plus réalistes. Et c'est parce que cette sagesse de l'âge devrait être là que les péchés de la vieillesse représentent des péchés bien réels et douloureux pour notre Seigneur dans son chemin de croix. On peut penser dans l'Ancien Testament aux deux vieillards dans le récit de Suzanne. Ces deux vieillards qui avaient conçu une passion forte pour la jeune Suzanne et qui, quand elle leur résistera, essaieront de la faire condamner à mort, l'accusant de leur crime à eux. La passion de l'âge mûr, la passion désordonnée, on la trouve également dans un épisode de l'Évangile, quand notre Seigneur s'interposa pour sauver la femme adultère qui allait être lapidée par les Juifs. Et il dira que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et l'Évangile note qu'ils se retirèrent un par un, à commencer par ceux qui étaient les plus âgés. Et les commentateurs diront qu'ils étaient peut-être ceux qui étaient les plus âgés, les plus conscients de leur crime ou les plus criminels. On imagine, dans la force de l'âge, les crimes passionnels, les adultères, les haines, les égoïsmes, mais à l'âge de la sagesse, pense-t-on, le bon grand-père ou la bonne grand-mère ou le bon arrière-grand-père ou la bonne arrière-grand-mère, on ne s'imagine pas de telles choses. Et pourtant, ces personnes plus âgées peuvent être d'autant plus coupables qu'elles devraient, encore une fois, avoir le recul de l'âge. Et parfois on trouve, toujours bien évidemment, des rancunes qui datent de dizaines d'années, des haines que l'on refuse de laisser derrière soi, des égoïsmes, des avarices qui refusent de donner autour de soi ce que l'on ne pourra pas emporter au paradis. On trouve parfois de mauvais désirs, la mauvaise humeur, le tempérament acariâtre qui ne s'est pas arrangé avec les années, et on trouve enfin et surtout parfois des âmes qui depuis des années traînent des péchés lourds sur leur conscience et qui dans leur orgueil n'ont pas l'humilité d'aller les confesser. Alors elles ont aujourd'hui une vie en apparence honnête, mais parfois des personnes âgées n'arrivent pas à se débarrasser de passé, de péché de jeunesse, uniquement par orgueil, par fausse honte. De la même manière que souvent nous n'arrivons pas à reconnaître dans les discussions les torts que nous pouvons avoir. Le prêtre pourrait venir, pour certaines personnes proches de mourir, et ça arrive vraiment, le prêtre pourrait venir près de leur lit de mort, qu'elle se retournerait de l'autre côté. Moi, ça m'est arrivé une fois. Dans la rue, j'avais été appelé par quelqu'un, une dame, pour son mari. Je suis arrivé chez la personne, je commence à parler, il se retourne de l'autre côté. Donc je passe de l'autre côté et il se retourne à nouveau. Très désagréable. Mais, non, mais tout ça pour dire, c'est quand c'est... Voilà. Hein. C'est... Voilà, l'orgueil. Hein, l'orgueil qui ne s'arrange pas forcément avec l'âge. On parle d'une certaine sagesse, mais l'orgueil est terrible. Hein. Les années passant également, on se rend compte, si nous sommes un peu lucides, que nous aurions pu mieux faire, que nous aurions pu mieux aimer Dieu, et la vieillesse devrait nous voir ou nous laisser du temps pour vaquer à des occupations plus religieuses. devrait nous voir nous convertir, devenir vraiment des amis de Dieu en allant à la messe plus régulièrement, en disant les prières qu'on n'a pas eu le temps de dire dans à un autre âge de la vie, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et c'est pourquoi il est bon de prier pour les personnes âgées. Il est bon de prier pour les mourants. Vous avez la dévotion, le chapelet de la Divine Miséricorde que certains d'entre vous connaissent. Une petite image là que vous pouvez prendre, chapelet très facile, hein, révélé à Sœur Faustine, mais qui demande de réciter à 3h ou à une autre heure le chapelet pour les mourants. Et notre Seigneur a déclaré à Sœur Faustine: récite chaque jour et sans cesse ce chapelet que je t'ai enseigné. Quiconque le récitera obtiendra à l'heure de la mort une grande grâce de ma miséricorde. Tu feras de grandes choses si tu t'abandonnes entièrement à ma volonté en disant: qu'il en soit non pas comme je veux, mais selon votre volonté, ô Dieu. Sache que ces paroles prononcées du fond du cœur transportent l'âme en un instant au sommet de ma charité, de la sainteté. Bon, etc. L'heure de la miséricorde, etc. Mais c'est une très bonne dévotion, très belle dévotion, qui parfois n'est pas très prisée par les milieux traditionnels parce que c'est comme ça. Mais c'est une très belle dévotion, la dévotion à la Divine Miséricorde, hein, qui mérite d'être exploitée. Mais on considère ça un peu moderne parce qu'elle a un peu éclaté dans les années 60, même si c'est là d'avant. Elle mérite vraiment d'être. C'est digne de Sainte Marguerite Marie du Sacré-Cœur. Hein. Voilà. On peut penser également, pour la conversion des âmes et les confessions que nous souhaiterions entendre, à l'exemple de Saint Joseph Cafasso, qui vivait au temps de Saint Jean Bosco, dans le même quartier à Turin. Il était aumônier de prison. Un jour, il avait préparé pendant toute une semaine 45 prisonniers parmi les plus criminels à une fête de la Sainte Vierge. Et ces prisonniers avaient promis qu'ils se confesseraient tous. Et voilà que la veille de la fête, les prisonniers sont rassemblés dans une salle et pas un ne veut se confesser. Saint Jean Cafasso reprend tout ce qu'ils avaient vu la semaine dernière. Il résume, il leur rappelle leur promesse, rien n'y fait. Alors, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais il s'est dirigé vers le plus grand d'entre eux, le plus fort, celui qui semblait le plus féroce. Il a attrapé sa barbe, il l'a tiré très fort, et le prisonnier, qui était un monstre par rapport à n'osait rien faire, il lui a demandé de lui lâcher la barbe, et le prêtre lui a répondu: je la lâcherai quand tu te seras confessé. Et l'autre lui a dit: mais je veux pas, je me suis pas préparé, etc. Et le saint lui a dit: bah, je te préparais. Et ils se sont retrouvés tous les deux au coin de la salle pour la confession. Et puis, donc il va se confesser, il va pleurer, il va faire une très belle confession. Et tous les autres vont également se confesser. Il leur expliquera qu'il ne s'est jamais senti aussi bien. Voilà, donc il faut prier pour les personnes qui parfois, on dit les personnes âgées, les personnes jeunes, comme on dit des pécheuses de la conscience, mais c'est vrai que ça peut arriver qu'une personne traîne à pécher, péché de jeunesse. Oh, c'est plus moi, ça c'était il y a très longtemps, ben oui, mais il est encore là. Oui. Et c'est vrai que c'est tellement plus nous, mais on a une boule dans le cœur, et ben, il faut la lâcher. Hein. Il faut aller se confesser plus simplement. Ben, donc, qu'est-ce qu'on va penser de moi avec ces merveilleux? Voilà, donc il faut prier souvent pour les personnes qui parfois peuvent mourir sans. Troisième chute de notre Seigneur, on peut évidemment penser à nos chutes et à nos rechutes dans le péché. Et c'est peut-être, même probablement, pourquoi il y a ces trois chutes dans le chemin de la croix qu'on trouve. Notre Seigneur nous montre le mal du péché, le mal du péché que nous confessons, mais le mal de ce péché dans lequel nous retombons pourtant si facilement. Parce que d'une confession à l'autre, nous le savons, nous confessons les mêmes péchés. D'un côté, c'est bien, parce qu'on ne confesse pas à chaque fois les péchés différents, comme si on innovait à chaque fois, mais c'est vrai qu'on retombe facilement dans les mêmes péchés qui sont dus à notre tempérament, qui sont dus à notre devoir d'État, qui sont dus aux personnes certainement avec lesquelles nous vivons, mais qui sont dus aussi parfois à un manque de réelle contrition ou un manque de ferme propos. Parfois nous sommes accablés par nos péchés, parfois nous sommes retombés dans un péché dans lequel nous sommes vraiment pas fiers d'être retombés. Parfois nous nous sommes emportés avec violence verbale, où on est tombé dans un vice qu'on avait vraiment pensé avoir abandonné 30 ans auparavant, etc. Eh bien, si cela arrive, et cela peut arriver à tout le monde, hein, parce que c'est pas parce qu'on est à la chapelle de l'Immaculée que tout d'un coup, ça y est, il y a certains péchés qui ne sont plus possibles pour nous. Donc, tous les péchés sont possibles sur nous jusqu'à la fin de notre vie. Si nous tombons dans un péché grave et que nous avons du mal à nous confesser, il faut regarder notre Seigneur tomber sous le poids de ce péché, sa troisième chute, et il se relève. Il se relève à chacune de nos chutes pour nous indiquer que nous devons toujours nous relever avec courage et humilité et jamais ne nous décourager. Saint Jean Chrysostome disait « Le pire, ce n'est pas de tomber, c'est de rester à terre après la chute et de ne faire aucun effort pour se relever. » C'est, disait-il encore, tandis que l'on croupit lâchement dans le mal, de dissimuler sous des sophismes inspirés par le désespoir la faiblesse de sa résolution et de sa volonté. Il écrivait ça il y a 1600 ans, mais ça ne change pas. Hein, on a tous du mal, moi le premier, à nous confesser. Et on peut penser, quand on a une confession un petit peu douloureuse, moi c'est ce que je me dis un soir, que j'ai du mal à dire quelque chose, à cause de l'orgueil et puis à cause des élans péchés. Hein. Je me dis, comment serait-il possible que les gens qui ne sont pas confessés depuis 20 ans se confessent si eux, qui ne sont pas prêtres, si moi qui suis prêtre n'y arrive pas, il faut se motiver parfois pour des enfants, il faut dire qu'on a quelque chose de lourd à dire, je le fais pour que mes enfants plus tard aient toujours le courage de se confesser, ou pour que mon mari, ou que pour mes neveux, etc. D'ailleurs, on peut donner. Et par le système des vases communicants, le bon Dieu utilisera notre humilité et notre belle confession pour aider peut-être un membre de notre famille à se confesser lui aussi. Mais enfin, il faut avoir du courage et surtout beaucoup, beaucoup d'humilité. Ça nous rappelle qu'il faut prier pour la conversion des pécheurs. C'est une demande de la Sainte Vierge à Fatima, dont on fête le 100e anniversaire l'année prochaine et déjà un petit peu cette année. Donc il faut prier pour la conversion des pécheurs. Le Saint Curé d'Ars disait « Mon Dieu, accordez-moi la conversion de ma paroisse, je consens à souffrir ce que vous voulez tout le temps de ma vie. » La conversion des pécheurs, tellement, tellement importante. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 qui n'ont pas besoin de pénitence. Et la prière du Saint Curé d'Ars était vraiment une prière pour la conversion des pécheurs qui le hantait véritablement. Il va par deux ou trois fois quitter Ars pour se réfugier à la Trappe et il reviendra parce que les gens lui diront « Mais qui va nous confesser ?» etc. Il reviendra en pensant aux âmes. Quand il avait failli abandonner sa vocation parce qu'il n'y arrivait pas, son curé, M. Ballet, va lui dire « Adieu les âmes !» Et là, du coup, il va revenir. C'est ce qui va le décider à persévérer en pensant aux âmes qui ne pourront pas bénéficier du secours d'un prêtre si lui n'était pas là. La prière est toute puissante auprès de Dieu, disait-il. Dieu est facile à gagner par la prière. Si l'on pouvait prier en enfer, l'enfer n'existerait plus. Prier pour les pécheurs, c'est la plus belle et la plus utile des prières, car les justes sont sur le chemin du ciel, les âmes du purgatoire sont sûres d'y entrer, mais les pauvres pécheurs, toutes les dévotions sont bonnes, mais il n'y en a pas de meilleure que celle-là. Voilà, nous prions pour la conversion des pécheurs, pour que ceux qui tombent se relèvent comme notre Seigneur dans sa troisième chute. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Notre Seigneur est dépouillé de ses vêtements, nous pouvons essayer, tant bien que mal, de nous représenter cette scène où notre Seigneur arrive au Golgotha, il va être crucifié, on le débarrasse de sa croix, les bourreaux arrachent, sans la déchirer, la tunique du Christ. Il l'arrache parce que cette tunique était très certainement adhérente à la chair, à vif, de notre Seigneur du fait de la sanglante flagellation. Et ce faisant, donc, ils ajoutent un nouvel élément de douleur à celle que subit notre Seigneur. À cette première douleur physique, il faut bien sûr ajouter la terrible douleur morale qui est ainsi infligée au Sauveur des hommes, au Roi des rois, qui se trouve dépouillé de ses vêtements et ainsi exposé entièrement nu, tel un esclave au regard de ceux et de celles qui le détestent. Il n'a plus rien. Il est exposé peut-être au regard des enfants, au regard de sa mère, de Saint Jean, de Sainte Marie-Madeleine qui mesure d'autant plus la honte infligée au Christ, qu'elle a connu le péché de la chair et qu'elle a utilisé cette même chair pour séduire, il fut un temps. La nudité, c'est bien sûr le sommet de l'avilissement imposé à la personne du Christ. Comme on le ferait dans les pires dictatures pour imposer aux prisonniers la honte la plus grande. Pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seulement des prisonniers, mais qu'ils ne sont plus qu'un jouet aux mains de leur bourreau. Qu'ils sont des sous-hommes. C'est le dernier petit rempart au respect que l'on peut avoir pour une personne humaine. Déshabiller quelqu'un, c'est mettre cette personne au rang de l'animal, puisque les animaux ne s'habillent pas, et les humains, eux, s'habillent en public par pudeur. C'est déshumaniser celui qui, dans le cas précis du Christ, s'est justement fait homme, lui, pour nous sauver. Donc, c'est le dernier abaissement, l'humiliation suprême que l'on peut voir dans cet outrage, dans cette souffrance que notre Seigneur a accepté de subir. Et nous pouvons y voir un appel à la pureté, un appel au respect de la personne humaine qui, de nos jours, est tellement souvent réduite à son aspect physique ou à son aspect charnel. Peut-être notre Seigneur souffre-t-il cette humiliation pour nous montrer combien ce voyeurisme qui a toujours existé, hein, mais qui de nos jours est multiplié presque à l'infini, y compris aux enfants avec le moyen d'Internet, combien tout cela est pécamineux, est pauvre, est réducteur, est laid. Notre Seigneur, par amour pour nous, pour réparer sans doute nos péchés d'impureté, nos mauvais regards, nos manières de nous habiller parfois qui peuvent être un peu légères, nos vanités, a voulu souffrir jusque-là en nous redisant aujourd'hui qu'à chaque fois qu'un mauvais désir ou qu'un mauvais regard sur une personne peut-être nous échappe, à chaque fois que nous nous faisons peut-être tentateur ou tentatrice par notre apparat trop soigné, c'est aussi peut-être et même sans doute le Christ que nous dépouillons à nouveau ses vêtements, car toujours ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à quoi vous le faites. Les mauvais regards portés sur les uns, et ça peut arriver à tout le monde, même au prêtre. Notre Seigneur pour nous a vraiment tout abandonné. Il a non seulement offert sa vie, ce qui est déjà extraordinaire, mais il l'a offert dans une grande souffrance, une souffrance extrême, et il a accepté l'humiliation, sans doute la plus grande, qui était celle d'être dévêtu, puis exposé ainsi devant ses ennemis comme devant ses proches. Monseigneur Guicard, nous en parlions tout à l'heure, donc qui était d'une famille princière, qui était devenu prince, qui est devenu prêtre, pardon, du diocèse de Paris, et qui est reparti en Roumanie travailler, qui s'est toujours occupé des pauvres, qui a vécu dans un bidonville aux portes de Paris pour s'occuper des plus pauvres, qui a été béatifié l'an dernier, il y a 2 ans. Dans sa vie, il va terminer martyr dans les prisons roumaines au temps du communisme. Il va être battu, torturé. Il va subir plus de 80 fois des pendaisons électriques avec des fils de fer et avec à plus de 80 ans. Mais ce qu'il craignait le plus, ce qu'il craignait par-dessus tout, et il le disait, il l'avait confié à un autre prêtre qu'il a pu rencontrer dans une autre cellule, c'était l'exécution de menaces qui lui avaient été faites d'être pendu, nu dans les rues de Bucarest, comme l'avaient été d'autres prélats dans les rues de Sofia. Vous voyez ? Comment pouvez-vous, disait-il, imaginer, un prêtre de l'un, que moi, vieil homme aux cheveux blancs, et à la barbe blanche, je sois suspendu, tout nu, en présence de la foule. Oui. Eh bien, le Christ l'a fait, pour nous. Donc il nous rappelle également, cette station nous rappelle également que nous devons être raisonnables avec notre corps et ne pas en faire une idole. Lui, notre Seigneur, le plus bel enfant des hommes, a été rendu méconnaissable. Il a accepté les ricanements quant à sa personne. Voilà, et on peut toujours se poser la question, quels soins apportons-nous à notre personne? Combien de temps passons-nous chaque jour à nous regarder comme la reine dans Blanche-Neige, dans la glace? C'est... Il y a des modes ecclésiastiques, hein, rassurez-vous, on n'est pas mieux. Hein. Pas mieux, c'est différent, mais c'est... On est tous pareils, malheureusement. On est tous pareils. Voilà. Monseigneur Chine, qui est en procès de béatification lui aussi, le procès s'est arrêté parce que son corps est dans une ville aux États-Unis et l'autre ville la réclame, donc du coup il y a un procès entre les deux villes et du coup le procès s'est arrêté, mais enfin il est en procès avec une petite pause. Un miracle a été reconnu. C'était un évêque très atypique. Il animait une émission de radio quotidienne, suivie par des millions de personnes. Il était évêque de New York. Il prêchait des conférences. Il a écrit des livres. Et donc un jour, il revient du Concile Vatican II. Il était dans un avion et il aperçoit une hôtesse de l'air, assez jolie. De toute façon, elles sont toutes jolies. On va bien habiller. Et il la regarde, il la regarde tranquillement, là, pendant un certain temps. Et celle-ci s'aperçoit ça, elle est un peu gênée. Et à l'arrivée de l'avion à New York, il attend que tous les voyageurs soient descendus, et il va voir l'hôtesse, et il lui dit « Vous êtes vraiment très belle. » Et il ajoute « Vous devez remercier Dieu de vous avoir donné cette beauté, et il descend. » C'était une autre époque. Le lendemain, quelques jours plus tard, on frappe à la porte de son bureau, c'était l'hôtesse qui lui dit « Vous m'avez conseillé de remercier Dieu de m'avoir donné la beauté, j'ai beau chercher, je n'ai pas encore trouvé la manière de le remercier. » Ça, c'est pour des petites idées pour vous. Et il lui dit « Vous connaissez la léproserie de Dulin au Vietnam ?» Elle lui dit « J'en ai entendu parler. » Allez-y. Vous y verrez des gens à qui Dieu a pris la beauté pour vous la donner. Allez-y et conseillez-les et consolez-les. Et donc cette petite suggestion ne tomba pas dans l'oreille d'une sourde. Elle dit adieu à sa carrière. Elle devint religieuse et partit chez les lépreux. Voilà.
Donc on n'a pas intérêt à recevoir des compliments.
Pardon ?
On n'a pas intérêt à recevoir des compliments. Ah, non.
Bon, si après je vous dis ça, méfiez-vous quand même.
Ah oui, pardon, oui, pardon, excuse-moi, voilà. Oui, de...
Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais sur le corps, que nous soignons parfois trop, que nous maquillons parfois trop à l'excès, etc. L'Église ne condamne pas le soin du corps, le maquillage. Saint François de Sales avait offert à la fille de Sainte Jeanne de Chantal une belle boîte de maquillage en lui disant à sa mère, il faut bien que les filles soient jolies. Donc il ne s'agit pas de vivre comme des talibans et d'être habillé dans des gigantesques sacs poubelles. Mais malgré tout, il y a une certaine pudeur. Il y a une certaine pudeur que nous devons cultiver, nous rappelant que la concupiscence, les mauvais désirs, les mauvaises pensées n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour être éveillés. Hein, du fait du péché originel, on est tous un petit peu abîmés. Et si vous laissez un gros gâteau au chocolat coupé en 30 parts sur la table de la cuisine, vous êtes sûr qu'il en restera 27 parts dans quelques minutes parce qu'un des enfants sera passé. C'est pas la peine, c'est trop tentant, voyez. Et de la même manière, tout ce qui touche un petit peu à la pureté, etc. Il faut pas grand chose, pour éveiller les sens. Donc une certaine pudeur est vraiment importante. Hein. C'est vrai que ça se perd un petit peu. Il faut que ce soit dans la bonne moyenne. Hein, in medio stat virtus, la vertu se trouve entre un trop peu et un pas assez. Voilà. Cette station nous invite également à la vertu d'humilité et à relativiser les humiliations qui peuvent être les nôtres. Le Seigneur s'est dépouillé, et parfois nous, dans nos œuvres, ou dans ce que nous entreprenons de bon, nous sommes trop attachés à notre réputation. Trop attachés, parce que nous sommes responsables du balayage de l'entrée de l'Église, à notre charge, ou au regard admiratif du reste des fidèles, comme il balaye bien, je dis il, justement, pas que vous soyez visé, ou au regard du curé, ou au regard de je ne sais pas qui, etc. Et en fait, il faut se détacher de tout ça. On se croit On se croit renoncer, on se croit détaché. C'est la même chose pour le prêtre qui prêche, hein. En sermon, si vous venez lui dire 15 fois qu'il a bien prêché, c'est pas très sympathique pour lui parce que ça va pas l'aider. Donc voilà, non, c'est vrai. Donc il faut, on est aussi orgueilleux que vous, et puis on vous dira oh, non, 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 dites pas ça. On fait des croix comme ça. C'est, ouais. Non, il faut pas. Hein. Donc on se croit détaché et mortifié. Et puis il suffit de peu pour s'apercevoir qu'on n'est pas détaché et mortifié. Hein. Si on s'aperçoit que sur notre merveilleux tailleur, on a une grosse tache ou un gros trou, ou qu'on est décoiffé, on s'en rend compte au bout de 20 minutes en passant devant une vitrine, là ça ne va plus du tout. Mais encore une fois, ça vaut également pour les prêtres. Il y a des marques de soutane, des ceci, des cela. Donc 10e station, Jésus dépouillé de ses vêtements. Un peu plus de simplicité, et ça passe par des faits. Ça passe par des faits. 11e station, notre Seigneur est attaché à la croix. Ou plutôt, bien sûr, Jésus est cloué à la croix. Et là, nous pouvons dire encore que notre Seigneur est cloué à la croix à notre place. Il est crucifié pour nos péchés et par nos péchés. Et cette croix, il l'accepte sans se plaindre. Première résolution, nous devons arrêter de nous plaindre. L'un des deux larrons se moquera de lui et lui dira « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et l'autre, pour nous, c'est justice d'être ici, mais lui, qu'a-t-il fait? Pour nous, ce serait justice d'être crucifié à la place de notre Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui monte innocent sur le bois de la croix et qui offre sa vie pour nous. Première parole quand il est crucifié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est pour cela que notre Seigneur est crucifié, pour que nous soyons pardonnés. Et cette prière du Christ sur la croix est importante, elle ne s'arrête pas uniquement au bourreau physiquement présent ce premier vendredi saint après-midi, non, elle embrasse toute l'humanité. Elle nous embrasse et elle nous atteint aujourd'hui. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'était aussi pour nous. Et c'est au moment même où le Christ souffre par nous qu'il demande notre pardon et notre grâce. C'est au moment même où il souffre par nous et où sa mère souffre avec lui du fait de nos péchés, non des siens, puisqu'elle était sans péché, la Sainte Vierge, c'est à ce moment-là que notre Seigneur lui demande de nous adopter et de nous prendre, nous, les bourreaux de son Fils, comme ses fils de substitution. Quel échange et quelle logique divine tellement étrangère à nos calculs de justice humaine. Dans tous les bons ou les mauvais films, ça dépend des jugements, ici-bas, on voit toujours celui qui assiste au dernier instant d'une personne tuée par la mafia ou je ne sais pas qui. Cette personne lui promet qu'il le vengera. Et il passe tout le film à poursuivre les assassins et à la fin il les trouve. Et puis il dit tiens, pour papa. Et donc ça c'est la justice humaine. Mais la justice divine est toute différente. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Hein, notre Seigneur nous donne à sa mère en mourant. Et quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est des paroles qui étaient certainement mystérieuses alors pour les apôtres, mais qui prennent évidemment à ce moment-là tout leur sens. Nous sommes chrétiens, ou tout au moins nous professons suivre la doctrine du Christ. Plus encore, nous prétendons vivre de la vie même du Christ, de sa grâce, un peu comme la sève dans une plante. Son sang coule dans nos veines, parce que nous recevons la Sainte Eucharistie, corps, sang, âme et divinité en nous régulièrement. Mais avons-nous l'Esprit du Christ? Disons-nous avec lui dans nos malheurs, dans nos persécutions, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ou n'avons-nous pas plutôt le réflexe du cinéma, ou le réflexe bien humain de maudire ceux qui nous font du mal? Et là, il y a place pour un véritable examen de conscience. Alors, on peut pardonner peut-être à la maison, mais est-ce qu'on pardonne le voisin? Est-ce qu'on pardonne la belle famille, ou je ne sais pas quoi? Voilà. Place à un examen de conscience, parce que nous devons nous souvenir que ce ne sont pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ce Père à qui nous disons « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons » Comme nous pardonnons, ça réduit le pardon. Le nom, celui qui nous sera donné. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, si nous ne pardonnons pas, nous scellons, en quelque sorte, notre avenir. Donc, nous devons pardonner à l'image du pardon demandé du haut de la croix. Autre considération quant à cette station, notre Seigneur est crucifié. C'est une chose évidente, il ne peut pas bouger. Il a été dépouillé de tous ses biens humains, maintenant il est dépouillé de la faculté de se mouvoir. Il est à notre merci. Il est comme paralysé, il ne peut plus boire sans demander par exemple qu'on lui donne à boire. Si j'ai soif. Et cet état de notre Seigneur à ce moment, eh bien c'est aussi l'état sur terre des grands malades. Parfois de gens qui ont 10 ans, qui sont paralysés sur un lit d'hôpital. Et je crois que c'est important d'y penser et de les associer à notre Seigneur en croix. Les grands malades ou ceux qui souffrent beaucoup, ils sont eux aussi en quelque sorte crucifiés. Parfois ils ne peuvent pas bouger. Ils doivent demander les soins dont ils ont besoin, ce qui est humiliant. Ils sont dans une grande souffrance physique, dans une grande détresse, dans des tentations souvent de découragement, la tentation de dire comme notre Seigneur sur la croix, « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Saint Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'il ne fallait jamais laisser un malade seul, parce qu'elle souffrait beaucoup. Et elle disait, on a des pensées de suicide, quoi, des pensées de découragement tel. Voilà. Pourquoi cette souffrance alors que tant semble en bonne santé, la souffrance du malade, elle est toujours difficile à appréhender, elle est toujours difficile à justifier, surtout quand c'est la maladie d'enfants ou de personnes qui ont des responsabilités, etc. Mais sa racine première se trouve dans le péché originel de nos premiers parents. C'est par ce péché que sont entrés dans le monde la maladie et la mort. C'est pas Dieu qui en est responsable, c'est on a fait des bêtises. Et mais nous devons croire, ceci étant dit, avec une grande fermeté, avec une foi qui transporte les montagnes, que cette souffrance des malades est aussi un moment très important de leur vie. Au calvaire, il y avait les deux larrons, deux criminels qui n'étaient probablement pas des gens fréquentables. Eh bien, il a fallu qu'ils soient crucifiés aussi pour que l'un des deux rencontre le Christ et se sauve. S'il n'avait pas été crucifié, le bon larron, il ne se serait probablement pas sauvé, il aurait continué ses crimes. Et comme lui, nous devons prier pour que les malades, les grands malades, réalisent que leur maladie est l'endroit particulier, l'endroit privilégié pour rencontrer le Christ qui a été lui aussi crucifié. Je complète en ma chair, dira saint Paul, ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Voilà. Peut-être un jour aurons-nous beaucoup à souffrir, peut-être avons-nous eu à souffrir, et bien cette souffrance, il faudra en faire quelque chose. Parce qu'offerte à Dieu, elle est profondément purificatrice. Elle est rédemptrice, elle est source d'éternité et elle annonce ce ciel où il n'y aura plus ni douleur ni larmes. Le pape Jean-Paul II, qui a beaucoup souffert, qui était un exemple, dans une lettre apostolique sur la souffrance, écrivait quelques lignes. La souffrance humaine a atteint son sommet dans la passion du Christ. Et simultanément, elle a revêtu une dimension complètement nouvelle. Et est entrée dans un ordre nouveau. Elle a été liée à l'amour. À l'amour dont le Christ parlait à Nicodème, à l'amour qui crée le bien, en le tirant même du mal, en le tirant au moyen de la souffrance, de même que le bien suprême de la rédemption du monde a été tiré de la croix du Christ et trouve continuellement en elle son point de départ. La croix du Christ est devenue une source d'où coulent des fleuves d'eau vive. C'est en elle aussi que nous devons reposer la question du sens de la souffrance et trouver jusqu'au bout réponse à cette question. Dans la souffrance, nous devons regarder notre crucifix. Il faut voir que le bon Dieu nous a aimés jusque-là et qu'il nous demande de l'aimer à notre tour, peut-être dans la maladie. Le pape Jean-Paul II parlait de l'évangile de la souffrance. Il disait que le Christ n'avait jamais menti à ses disciples et qu'il leur avait promis ici-bas des persécutions. Et il écrivait encore, c'est Jean-Paul II, « À travers les siècles et les générations humaines, on a constaté que dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche intérieurement l'homme du Christ. Une grâce spéciale. C'est à elle que bien des saints doivent leur profonde conversion, tels saint François d'Assise, saint Ignace de Loyola. Le fruit de cette conversion, c'est non seulement le fait que l'homme découvre le sens salvifique de la souffrance, mais surtout que dans la souffrance, il devient un homme totalement nouveau. Il y trouve comme une nouvelle dimension de toute sa vie et de sa vocation personnelle. Cette découverte confirme particulièrement la grandeur spirituelle qui, dans l'homme, dépasse le corps d'une manière absolument incomparable. Lorsque le corps est profondément atteint par la maladie, réduit à l'incapacité, lorsque la personne humaine se trouve presque dans l'impossibilité de vivre et d'agir, la maturité intérieure et la grandeur spirituelle deviennent d'autant plus évidentes et elles constituent une leçon émouvante pour les personnes qui jouissent d'une santé normale. Et c'est vrai qu'il y a un témoignage extrêmement beau d'union au Christ porté par la personne souffrante qui ne se révolte pas mais qui console ses proches. Qui sait même remercier Dieu et voir le chemin de la rédemption que le Seigneur lui demande d'emprunter à sa suite. Chemin de purification, comme on purifie l'or au feu. Et encore une fois, le pape Jean-Paul II a été un exemple de pape qui a souffert physiquement dans son corps à la fin de sa vie. Il ne se plaignait pas. Sur la croix, le Christ demandera à boire en disant « j'ai soif », comme s'il donnait à ses bourreaux une ultime occasion de lui manifester un peu de compassion. Comme quand il avait trempé le pain et qu'il l'avait tendu à Judas pour lui donner une occasion de revenir à lui. Dans l'évangile également, quand il s'était assis sur le puits de Jacob, il avait dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire ». La Samaritaine pécheresse qui avait eu 5 maris et en lui disant « Donne-moi à boire », c'était une occasion de commencer une conversation. Une occasion donc de lui faire du bien. Et là, en disant « j'ai soif », il redonne l'occasion à un soldat romain de lui faire du bien et donc de se faire du bien. Car quand nous faisons, encore une fois, une bonne action envers Dieu, quand nous faisons une bonne action envers notre prochain, c'est aussi à nous que nous faisons une bonne action. Dans nos vies, le Seigneur nous donne également l'occasion de lui faire du bien et ainsi de grandir. Un peu comme un père de famille qui dirait à son fils de 7 ans « Tu vas m'aider à faire tel ou tel travail. » Ben, ce n'est pas tant pour le travail de son fils, hein, parce que le fils ne va certainement pas l'aider à grand-chose, sinon le ralentir, mais c'est surtout pour donner l'occasion à son enfant de développer sa générosité, son courage, sa volonté, son effort. Et bien le Seigneur, pareil, met sous nos yeux de bonnes actions à accomplir pour nous. Pour nous développer, pour nous purifier, pour nous faire grandir, etc. Notre Seigneur nous redit, aujourd'hui, certainement, souvent, j'ai soif dans ce pauvre, j'ai soif dans ce malade, j'ai soif dans ma vieille mère âgée, dans cette autre personne âgée qui est un autre moi-même, à qui je te demande de faire du bien, de donner un peu de ton temps, un peu de ton sourire, un peu de ta patience, comme si c'était à moi. Car ce que tu feras au plus petit d'entre les miens, etc. Et le premier à bénéficier de ta bonne action, ce sera toi. le bon Dieu veut susciter en nous le bien pour nous faire grandir. Donc ne soyons pas insensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Oui, mais je ne saurais pas quoi dire. C'est pas important. Allez-y. Voilà. 12e station. Notre Seigneur meurt sur la croix. Si le grain de blé ne meurt, avait-il dit dans l'Évangile, si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Et il avait dit encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette 12e station, c'est donc la manifestation la plus parfaite de l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On dit, vous le savez peut-être, que les martyrs vont directement au ciel. C'est-à-dire que les martyrs, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ceux qui sont morts pour lui, ils ont accepté de mourir pour lui, eh bien, ils vont directement au ciel. Le pape Saint Pie X, citant Saint Ambroise, disait « Il fait injure aux martyrs celui qui prie pour les martyrs. » Si quelqu'un meurt martyr, il n'a pas besoin de prier pour lui, il est au ciel. Pourquoi est-il au ciel ? Parce qu'on ne peut rien donner de plus à Dieu que sa propre vie. Et donc si on donne à Dieu sa vie, par le martyr, si on l'accepte, eh bien nous avons tout donné. Nous sommes prêts à rentrer au ciel directement parce que nous n'avons plus d'attache. Si on avait une attache, on aurait dit « je ne veux pas mourir martyr ». Et à partir du moment où on donne sa vie, eh bien c'est qu'on a, on a donné, on n'est plus attaché à rien. Sinon, on aurait dit « Non, non, pas mes légos. » Voilà. Eh bien, le Seigneur, pour nous, a tout donné également. Et il nous demande, en échange, de nous donner à lui, nous aussi. Ce don de Jésus, il n'est pas achevé. Car les œuvres de Dieu sont sans fin. Si Dieu aime une personne, cet amour ne s'arrête pas. Si Dieu se donne à nous, ce don ne s'arrête pas, mais il a une valeur d'éternité, car Dieu est éternel. Donc, cet amour infini de Dieu pour nous, manifesté sur la croix, il continue encore aujourd'hui. Donc, le Seigneur ne souffre plus, bien sûr, mais il continue à s'offrir chaque jour sur nos autels, pour notre salut, sous les apparences du pain et du vin, de manière non sanglante, et c'est d'ailleurs le renouvellement du sacrifice de la croix. Notre Seigneur, tous les jours encore, travaille à notre salut. Et la 12e station, la mort de Jésus en croix, c'est finalement cela, c'est la messe. La messe qui est le renouvellement du sacrifice de la croix de manière non sanglante. Cette offrande, réitérée chaque matin ou chaque après-midi, ce sont des fruits innombrables versés à nouveau sur le monde par amour, comme le fut le sacrifice de la croix. Et si nous méditons un petit peu sur cette 12e station, sur le sacrifice accompli par le Christ pour nous, si nous méditons parfois sur la lâcheté des apôtres qui n'étaient pas là, et si nous pouvons nous dire « ils n'étaient finalement pas très courageux, ils ont fui, mais moi, je serais resté ou je serais venu au pied de la croix avec saint Jean », eh bien nous pouvons montrer la vérité de cette phrase, ou non, en assistant ou non souvent à la messe. La messe et la croix. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous ne sommes pas là? Est-ce que nous sommes distraits? Est-ce que nous ne sommes pas distraits? Est-ce que nous essayons d'y aller un petit peu en semaine? Quand on peut, bien évidemment. Ou alors, est-ce que nous ne faisons pas d'efforts? Nous rendons-nous compte véritablement de ce qu'est la messe? Le Saint Curé d'Ars disait, si le prêtre comprenait ce qu'est la messe, il mourrait. Et il ajoutait, il mourrait non de frayeur, mais d'amour. Si notre amour n'est pas activé par la pieuse assistance à la messe, si notre amour n'est pas ému fortement par notre présence à la messe, peut-être ne réalisons-nous pas vraiment ce qu'est la messe, car au pied de la croix, nous aurions été émus. Notre amour aurait été fortement enflammé. Et nous pouvons demander dans nos prières à la Sainte Vierge qui était là, au pied de la croix, à Saint Jean également, à nos anges gardiens qui étaient là, et bien de nous apprendre à aimer davantage la messe et à comprendre sa valeur infinie. Le Padre Pio, Saint Padre Pio disait « Le monde pourrait se soutenir plus facilement sans le soleil que sans la messe. Et pour ceux qui vont à la messe tous les dimanches, vous allez à la messe tous les dimanches, mais pour ceux qui ne peuvent y aller qu'une fois par semaine, cette messe le dimanche doit être le centre, le cœur de la semaine, la force de toute la semaine. Pour ceux qui peuvent y aller, c'est une grâce immense, hein, tous les jours ou plusieurs fois par semaine, c'est le cœur de la journée. Hein. Et on peut en revenir transformé comme on en reviendrait du calvaire. 13e station, Jésus est descendu de la croix, remis à sa Sainte Mère. Nous oublions trop souvent la place de la Sainte Vierge dans l'histoire du salut. Elle est, la Sainte Vierge, celle qui par son fiat nous a donné notre Sauveur. Elle est devenue ce jour-là, le vendredi saint aussi, mais déjà ce jour-là, notre Mère. Notre Seigneur nous l'a donné sur la croix. Quand il a dit à Saint Jean, voici ta mère, et à elle, voici ton fils. Pourtant, elle était déjà notre mère à l'incarnation. Elle était déjà notre mère à l'incarnation parce qu'elle a donné naissance à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'humanité. Nous sommes membres du Christ. Donc en donnant naissance à Jésus, elle a donné naissance également à ses membres. Donc elle était, avant le vendredi saint, déjà la mère de l'Église, la mère du corps mystique. Le Christ est la tête et nous sommes les membres. Vous voyez ? Et c'est pour ça que dans la liturgie, on appelle souvent le Christ par le terme primogenitus, premier-né. Premier-né, parce que nous sommes aussi nés de la Sainte Vierge. Nous oublions souvent les souffrances de la Sainte Vierge dans l'histoire du salut, souffrances méritoires. On parle de Notre-Dame des Sept Douleurs, vendredi de la première semaine de la Passion, également fête le 15 septembre. Les sept douleurs de la Sainte Vierge, dont la sixième est justement la remise du corps inanimé du Sauveur dans les bras de sa mère. À la bienheureuse Véronica de Binasco, le Seigneur a dit, ma fille, les larmes que vous versez de compassion pour mes souffrances me sont agréables. Mais gardez à l'esprit que, en raison de mon amour infini pour ma mère, les larmes que vous versez de compassion pour ses souffrances sont encore plus précieuses. La bienheureuse Véronique, donc de Binasco, était une religieuse de la fin du 15e siècle à Milan. Et la Sainte Vierge lui était apparue alors qu'elle essayait, analphabète, d'apprendre à lire pour entrer au couvent. Et elle lui avait dit, bannissez cette inquiétude, il suffit que vous connaissiez trois lettres. Il ne faut pas dire sans enfant. La première est cette pureté de cœur qui consiste à aimer Dieu par-dessus tout et à n'aimer les créatures qu'en lui et pour lui. La seconde est de ne murmurer jamais et de ne point s'impatienter à la vue des défauts du prochain, mais de le supporter avec patience et de prier pour lui. La troisième est d'avoir chaque jour un temps marqué pour méditer sur la passion de Jésus-Christ. Et on retrouve là l'étude de la passion et aussi également le fait de supporter le prochain sans murmurer, comme nous le faisons, disons parfois. Revenons aux souffrances de Notre-Dame. Le bienheureux Don Marmion disait « Nous ne pouvons imaginer la douleur de la Vierge à ce moment de la descente de croix. Jamais mère n'a aimé cet enfant comme Marie a aimé Jésus. Quelle douleur inexprimable, fut la sienne lorsqu'elle reçut dans ses bras le corps ensanglanté de Jésus. Marie est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle s'est associée aux souffrances de son fils. Elle s'est offerte avec lui, elle l'a offert en union avec son offrande à lui, car son cœur battait à l'unisson de celui de son fils. Cette offrande de la Sainte Vierge, elle l'avait fait déjà le jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple. quand le vieillard Siméon allait lui dire que son fils serait un signe de contradiction et qu'un glaive de douleur transpercerait son âme. Dans son poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?», Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrivait « Marie, tu m'apparais au sommet du calvaire, debout près de la croix, comme un prêtre à l'autel, offrant pour apaiser la justice du Père ton bien-aimé Jésus, le doux Emmanuel. » Un prophète l'a dit, ô Mère désolée, il n'est pas de douleur semblable à ta douleur. Ô Reine des martyrs, en restant exilée, tu prodigues pour nous tout le sang de ton cœur. Donc, la Sainte Vierge a offert son Fils sans aucune retenue. Son fiat de la première heure de l'Annonciation a été total jusqu'au soir de sa vie. Le glaive prédit par Siméon a été bien présent et surtout bien accepté. Quand elle perdra l'enfant Jésus au temple, son fils lui dira « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père ?» Et la Sainte Vierge a médité cette leçon. Elle a été soumise, ou plutôt abandonnée au plan divin, qui a dû certainement être bien difficile pour elle à comprendre. L'évangéliste note pour la perte de l'enfant Jésus au temple, après ces paroles de notre Seigneur, note que ses parents, ils ne comprirent pas les paroles de Jésus. La Sainte Vierge est un modèle d'obéissance, et modèle d'obéissance aux plans les plus fous et les plus incompréhensibles de Dieu. Elle doit accepter sans se révolter la passion pour son fils. Et elle est certainement un modèle pour nous dans toutes les plaintes que nous émettons si souvent pour tant de choses. Elle ne sait pas plainte. Elle a saisi la volonté de Dieu sans la comprendre totalement et elle l'a suivie. Dans un autre passage du même poème, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrivait « Mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme qui le cherche en la nuit de la foi. » Petite ligne. Et nous pouvons demander donc dans cette 13e station à Notre-Dame de nous apprendre à faire la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix et quelle que cette volonté soit. À être non pas résigné, mais à vraiment accepter cette volonté aussi incompréhensible soit-elle, sachant que Dieu est sage, sachant que Dieu est bon, sachant que Dieu sait mieux que nous et qu'il peut faire sortir d'un mal un bien. Dieu a prévu pour ma vie, pour moi, tel remède. Et les remèdes sont toujours amers. On peut penser à la prière de Madame Élisabeth, qui est proche d'ici. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, oh mon Dieu ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, oh mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels. Je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte tout. Je vous fais le sacrifice de tout et j'unis ce sacrifice à celui de votre cher fils, mon sauveur, vous demandant par son Sacré-Cœur, etc., etc., etc. Et elle mourra guillotinée à 30 ans. Dans cette station, Notre-Dame reçoit dans ses bras le corps inanimé de son fils et nous pouvons aussi demander la grâce de savoir accepter les deuils qui pourront nous frapper. Le décès d'une personne très âgée, malade depuis longtemps, c'est prévisible et peut-être plus acceptable, mais c'est vrai que le décès d'un proche dans sa jeunesse est toujours terrible, extrêmement difficile humainement à accepter. Et pourtant, nous sommes faits pour le ciel. Notre-Dame savait qu'il fallait que tout cela soit accompli. Elle savait que cette séparation ne serait que pour un temps. Même si une personne très proche de nous décède, ce qui est humainement terrible, cette personne est faite pour le ciel. Le bon Dieu l'aime encore plus que nous l'aimions. Vous voyez ? Et nous retrouverons. La séparation n'est que pour un temps. Stabat Mater Dolorosa, la mère des douleurs se tenait debout au pied de la croix. Demandons-lui donc de savoir nous tenir debout dans nos deuils et de nous rappeler que la passion, la mort, la souffrance mènent à la résurrection et laissent entrevoir l'aube de celle-ci. Dernière station, enfin, Jésus est mis au tombeau. Notre Seigneur est donc mis au tombeau et confié aux soins de Nicodème et des saintes femmes qui vont rendre à notre Seigneur l'honneur qui lui est dû. Et Joseph d'Arimathie. Ils vont embaumer le corps à la hâte, il est vrai, car le sabbat arrivait. Pilate, à la demande des Juifs, va faire placer des gardes de peur que le corps ne soit volé par les apôtres et que ce vol n'accrédite le fait de la résurrection annoncée. Et voilà qu'au petit matin du dimanche de Pâques, malgré les gardes, eh bien le tombeau est vide. Le tombeau est vide car le Seigneur est ressuscité comme il l'avait annoncé. Détruisez ce corps et je le ressusciterai en 3 jours. Et cela nous rappelle que la victoire du Christ est toujours assurée. Sur terre, nous sommes engagés à la suite du Seigneur dont nous devons suivre les traces. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, c'est ce qu'il disait dans l'Évangile. Nous sommes engagés dans un long chemin de croix. Nous sommes engagés dans un combat spirituel dont le premier ennemi, c'est tout d'abord nous-mêmes. C'est pas d'abord les francs-maçons ou les juifs ou les peut-être aussi, mais notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est le vieil homme qui est en nous et qui voudrait bien faire sa volonté. Nous sommes engagés contre le monde dont Satan est le prince, contre le monde et ses idéologies, contre les hérésies qui voudraient changer la foi catholique, contre les fausses religions suscitées par le diable. Nous sommes engagés contre les idéologies modernes, contre les idoles, l'argent, l'ambition, la gloire, le plaisir des sens, la liberté au sens moderne du mot qui est en fait un esclavage, contre notre égoïsme et nos passions. Et ces combats dans lesquels nous sommes engagés, eh bien le Christ les a déjà gagnés. Il les a gagnés pour nous au matin de Pâques et c'est à nous de croire en cette victoire et de demeurer fidèles. Trop souvent, nous nous décourageons. Comme si la victoire du Christ n'existait pas. Qu'allons-nous devenir ? Nous sommes comme les apôtres dans la barque, ballottés par le flot, disant « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons ». Eh bien, nous ne périssons pas du tout parce que le Christ a gagné. Quand même nous serions martyrs, la victoire, elle est assurée. Quand même serions-nous mis en prison, quand même verrions-nous nos amis s'éloigner de nous, peut-être serions-nous un peu découragés et dirions-nous comme notre Seigneur, demanderions-nous, comme il l'a fait, que ce calice s'éloigne de nous, mais sur ce chemin qui est le nôtre sur terre, il y aura toujours notre Seigneur pour porter notre croix. Il y aura toujours la Sainte Vierge vers laquelle nous devons nous tourner. Le Christ est tête de l'Église, chef de l'Église, et nous sommes les membres. La tête a été persécutée, les membres seront persécutés, la tête est ressuscitée et montée aux cieux, et les membres monteront aux cieux également. Le soir du Vendredi Saint, nous pouvons nous imaginer le désarroi des apôtres, le désarroi de Sainte-Marie-Madeleine, de Nicodème, de Joseph d'Arimathie. Le maître a rendu l'esprit, la pierre du tombeau a été roulée et est bien gardée par les soldats en armes. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est vrai qu'il y a, semble-t-il, des pierres qui semblent, elles aussi, inamovibles. Bien des systèmes qui semblent également indépoulonnables. Bien des idéologies titanesques et tentaculaires. Pourtant, songeons au communisme derrière le rideau de fer qui tenait tout d'une main de fer. Le communisme, il est plus là ou plus là de la même manière. Tous ces systèmes s'écrouleront. La victoire du Christ, elle est assurée et elle est aussi notre victoire. Nous serons couronnés au ciel si nous avons accepté de lutter pour la vérité, c'est-à-dire pour Dieu. Et le résultat terrestre, il n'est pas si important que ça.
c'est le résultat céleste qui importe. D'abord, pensez au travail des 12 apôtres, dont l'un trahira. C'était des hommes comme vous et moi, avec leurs faiblesses, leur caractère propre, leur métier, leur famille. Ils avaient été tous, sauf Saint Jean, des lâches au moment de la Passion. Même Saint-Pierre avait renié. Et ils seront les témoins de la résurrection. Et ce témoignage de la résurrection, ils le porteront aux quatre coins de la terre, remplis de la force du Saint-Esprit envoyé sur eux à la Pentecôte. Vous serez mes témoins. C'est ce que leur avait dit le Christ, et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Donc en méditant sur le chemin de croix, en pensant à cette résurrection à venir, le chemin de croix annonce l'aube de la résurrection, c'est la victoire du Christ qui est là.